Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Est-il possible d'aimer Jean-Jacques, de le comprendre, d'admirer sa pensée limpide, tout en se méfiant de Rousseau, de ses raisonnements un peu secs, de sa prétention à généraliser à toute une société les préceptes tirés par son intelligence hors norme, de sa sensibilité hors norme ? Peut-on assumer l'idée d'une proximité avec Jean-Jacques et d'une certaine distance avec Rousseau? Cette question, pour tout vous dire, je me la pose à répétition depuis que j'ai 16 ou 17 ans, depuis que le même personnage admiré dans les cours de français m'a paru plus dangereux dans les cours d'histoire. Il est vrai que peu de nos grands auteurs, je parle ici des plus grands, il est vrai que parmi les héros de nos lettres, rares auront été ceux qui, comme lui, à ce degré de véritable incandescence, auront présenté, sous un même nom, sous une même plume, des paradoxes à ce point marqué. Rousseau est l'homme instable, inconstant, dont la vertu civique, dont la morale en mots, dont les modèles de papier sont sans doute les plus stables et les plus constants. Rousseau, qui par 5 fois est allé abandonner ses propres rejetons aux enfants trouvés, a signé le plus ambitieux des traités d'éducation. Rousseau, dont les amours si difficiles l'ont ballotté de frustration en regret, Rousseau a signé le roman sentimental le plus élevé de son siècle. Rousseau, qui jamais n'a su trouver sa place dans le monde, livre l'autobiographie la plus accomplie du XVIIIe siècle. Alors, faut-il, comme certains étudiants pressés, se contenter de rire d'Émile, de hausser les épaules devant la nouvelle Héloïse ou de bâiller aux confessions? Est-ce qu'il ne serait pas plus fécond de se laisser bercer par leur musique, leur sublime musique? Jean-Jacques se regardait lui-même d'ailleurs comme un musicien. Il rêva même un temps de révolutionner l'écriture musicale et il a présenté devant l'Académie tout un système de notation qui finalement n'a pas été accepté. Bref, est-ce qu'on ne devrait pas se laisser bercer et dans ce bercement même, essayer de comprendre un homme qui, et sa personne ne le conteste, a osé se regarder lui-même en face et se présenter à nos yeux sans aucun phare?
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je parlais du musicien qui se rappelle aujourd'hui que Jean-Jacques Rousseau l'a été, musicien, son devin du village, un petit opéra en un acte qu'on nommait à l'époque un intermède, a même été joué à 2 reprises devant un Louis XV charmé et devant sa cour éblouie. La première s'est donnée le 18 octobre 1752 à Fontainebleau, dans le petit mais somptueux théâtre de la cour qu'animait à l'époque et sur lequel exerçait un véritable magistère Madame de Pompadour, bien sûr. Dans les confessions, Jean-Jacques nous raconte cette fameuse soirée. Il est discrètement installé dans une baignoire, il entend bruisser autour de lui. C'est lui qui raconte, je le cite, « On ne claque point devant le roi. » Claquer, ça veut dire applaudir. Hein. « On ne claque point devant le roi, cela fit qu'on entendit tout. La pièce et l'auteur y gagnèrent. J'entendis autour de moi un chuchotement de femmes qui me semblaient belles comme des anges et qui s'entredisaient à demi-voix. Cela est charmant, cela est ravissant, il n'y a pas un son là qui ne parte du cœur. Le plaisir de donner de l'émotion à d'aimables personnes m'émut moi-même jusqu'aux larmes et je ne pus les contenir au premier duo en remarquant que je n'étais pas le seul à pleurer. Le lendemain, Géliot, qui donc est le grand chanteur de cette affaire, m'écrivit un billet où il me détailla le succès de la pièce et l'engouement où le roi lui-même en était. « Toute la journée, me marquait-il, sa majesté n'aura cessé de chanter avec la voix la plus fausse de son royaume. J'ai perdu mon serviteur, j'ai perdu tout mon bonheur. » Une autre représentation aura donc lieu quelques jours plus tard parce que Louis XV veut réentendre l'intermède. La représentation aura lieu le 24 octobre. Or, Rousseau, évidemment, ayant su plaire à sa majesté, on lui propose une pension. Et c'est le duc d'Aumont qui l'invite à se rendre au château de Fontainebleau pour se présenter à sa majesté et recevoir les louis d'or. C'est quand même pas très compliqué. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, Rousseau va décliner l'invitation. Je le cite de nouveau. Croirait-on que la nuit qui suivit une si belle journée fut une nuit d'angoisse et de perplexité pour moi? Je me figurais déjà devant le roi. Ma maudite timidité qui me trouble devant le moindre inconnu m'aurait-elle quitté devant le roi de France? Je voulais, sans quitter l'air et le ton sévère que j'avais pris, me montrer sensible à l'honneur que me faisait un si grand monarque. Il fallait envelopper quelque grande et utile vérité dans une louange belle et méritée. Pour préparer une réponse heureuse, il aurait fallu prévoir juste ce qu'il pourrait me dire. S'il allait m'échapper dans mon trouble, quelqu'une de mes balourdises ordinaires, ce danger m'alarma, m'effraya, me fit frémir au point de me déterminer à tout risque de ne point m'y exposer. Je perdais, il est vrai, la pension qui m'était offerte en quelque sorte, mais je m'exemptais aussi du joug qu'elle m'eût imposé. Adieu la vérité, la liberté, le courage, comment oser désormais parler d'indépendance, de désintéressement? Il ne fallait plus que flatter ou me taire. Et en recevant cette pension, encore qui m'assurait qu'elle serait payée? Que de pas à faire, que de gens à solliciter. Et finalement, Rousseau, qui pourtant a tellement besoin à l'époque de cet argent, il en a besoin pour lui, mais aussi pour sa compagne, pour cette Madame Levasseur dont on sait qu'elle vit le plus chichement du monde, eh bien, Rousseau n'ira pas chercher la pension. Et Madame de Pompadour, dont on n'arrive jamais à savoir si elle est davantage agacée ou amusée par la coquetterie coûteuse de ceux qui refusent ses prébendes, Madame de Pompadour va trouver un moyen de récompenser Jean-Jacques malgré tout. Elle lui fait parvenir des pages de musique à copier et elle rétribue grassement ce petit service. Sauf que notre homme a déjà fui. Jean-Jacques est timide par orgueil, comme il est nomade par faiblesse. Il voyage sans cesse et vous savez qu'il aime tant marcher. Jamais je n'ai tant pensé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans les voyages que j'ai faits tout seul et à pied, je ne puis presque penser quand je reste en place, disait-il. Il a du mal du reste à se concentrer, ce mélancolique qui souvent frôle et frise la neurasthénie. Quand une lecture lui demande une application un peu soutenue, je le cite, « Mon esprit se perd dans les nuages. Si je m'obstine, si je m'épuise inutilement, les éblouissements me prennent. Je ne vois alors plus rien. » Oui, il y a chez lui un lien immédiat entre l'affect et l'intellect. Il ne peut retenir que ce qui l'a touché, que ce qui l'a ému. Il racontait que s'il avait lu un livre alors qu'il était malade, eh bien, il ne pouvait plus jamais le relire sans ressentir exactement les symptômes de sa maladie. Tel était Jean-Jacques Rousseau, ce paradoxe vivant qui peut se montrer à la fois insolent, intrépide parfois, et en même temps paresseux, muet, volontiers, honteux. L'acte le plus banal lui provoque des palpitations. S'il devait aller entrer tout jeune chez un boulanger pour une friandise, je le cite, « Des femmes se tiennent au comptoir, je crois les voir déjà rire et se moquer du petit gourmand. » Oui, ça travaille là-haut, si vous me passez l'expression, et rien que pour cela. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rousseau, on ne peut qu'apprécier Jean-Jacques. Thank you. L'ensemble Les Nouveaux Caractères sous l'action de Sébastien Dérin interprétait cette ouverture du Devin de Village, musique et paroles de Jean-Jacques Rousseau.
Vous écoutez Radio Classique.
Tout avait basculé quand Rousseau avait 15 ans. Nous sommes le dimanche 14 mars 1728 à Genève. Il rentre d'une grande promenade où il s'est beaucoup amusé avec trois amis et il se rend compte, parce qu'ils sont un peu en retard, les quatre garnements là, il se rend compte que les portes de la ville ont été relevées. Et oui, on est à Genève, qu'est-ce que vous voulez? Et la dernière fois que ça lui est arrivé, il a reçu le fouet de la part de son maître, car il est apprenti chez un graveur à l'époque, et le graveur en question n'est vraiment pas quelqu'un de bien. Alors il décide, Jean-Jacques, ça paraît fou, mais il décide à 15 ans qu'il ne rentrera pas et qu'il va commencer à pérégriner. « J'entrai avec sécurité dans le vaste espace du monde, dira-t-il dans les confessions. Mon mérite allait le remplir. À chaque pas, j'allais trouver des festins, des trésors, des aventures, des amis prêts à me servir, des maîtresses empressées à me plaire. En me montrant, j'allais occuper de moi l'univers. » Cette expression est quand même assez invraisemblable et elle est formulée au XVIIIe siècle. « J'allais occuper de moi l'univers. » Oh, il avait une enfance ballottée, ce petit garçon qui était né en tuant sa mère, si l'on peut dire. Vous savez, c'est en tout cas comme ça qu'étaient considérées les choses à l'époque. Il était né en juin 1712, le 28 juin exactement, chez un horloger qui donc, plus tard, l'avait placé chez ce graveur en apprentissage. Et le voilà qui, ne sachant à quel saint se vouer, va aller frapper à la porte du curé de Confignon en Savoie. C'est lui qui l'adresse à une certaine madame de Varins, qui habite à Annecy. Et le jour où il arrive, c'est le jour des rameaux d'ailleurs, il raconte ça, il croyait tomber sur une vieille dame un peu bigote qui allait s'occuper de lui, pas du tout. Il tombe sur une femme encore relativement jeune, même si elle a 13 ans de plus que lui, et qui le séduit tout à fait. Elle l'envoie à Turin, chez les catéchumènes de Turin. Finalement, il va donc abjurer sa religion calviniste, devenir catholique sans aucune conviction. Et puis, après bien des pérégrinations que je n'ai pas trop le temps de vous raconter, il retourne chez celle qu'il appellera maman, car il y a une espèce de tendresse qui s'établit très vite entre le tout jeune Jean-Jacques et madame de Varins. Elle l'accueille tendrement, son petit chat, comme elle l'appelle, et elle finira bientôt par en faire son amant. Ce sont des périodes étranges où l'on va voir Jean-Jacques Rousseau essayer d'étudier, de lire, d'apprendre dans tous les domaines. Il rencontre 1000 personnes à travers madame de Varins. Cette époque, nous dit Jacques Janssens, est vraiment la plus heureuse de sa vie. Surtout depuis que madame de Varins a loué les Charmettes, qui est une jolie propriété qu'on visite encore du reste, Jean-Jacques ne se plaît nulle part autant que dans ce petit domaine campagnard aux portes de Chambéry. « Oh maman !» s'écrie-t-il avec attendrissement, parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, ça ne s'invente pas. « Ce séjour est celui du bonheur et de l'innocence. Si nous ne les trouvons pas ici l'un avec l'autre, il ne faut les chercher nulle part. » Bon, ça ne l'empêchera pas d'aller pérégriner à Montpellier, où il tombe amoureux de madame de Larnage, à Lyon, où il tombe encore amoureux. C'est un véritable cœur d'artichaut, pour tout vous dire. Il ira ensuite à Paris, il fréquentera les salons de madame de Beuzeval, de madame Dupin. Il deviendra le secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise, le comte de Montaigu, qui l'initie à la Sérénissime et à ses célèbres courtisanes. Il y en a une, d'ailleurs, qui lui dit « Dis donc, Jeannot, laisse les femmes étudier plutôt les mathématiques », c'est vous dire qu'il n'a pas tellement d'aisance avec les dames, Jean-Jacques, et Dieu sait qu'il les aime, pourtant qu'il en est littéralement obsédé. Finalement, il va faire une fin, comme on aurait dit à son époque, avec une jeune servante d'auberge qui s'appelle Thérèse Levasseur. Elle est là en 1746. « Je n'avais cherché d'abord qu'à me donner un amusement », dira-t-il dans les confessions. « Je vis que j'avais plus fait et que je m'étais donné une compagne. » Ah oui, il s'est donné une compagne et elle va lui donner les 5 enfants qu'il abandonnera scrupuleusement un à un. « Hors d'état de les élever moi-même, il aurait fallu, dans ma situation, les laisser élever par leur mère, qui les aurait gâtés, et par sa famille, qui en aurait fait des monstres. Essaiera-t-il de se justifier ? Essaiera-t-il ? Je dis bien. » Grâce à madame d'Épinay, il fréquente les beaux milieux, il va même collaborer à l'encyclopédie, et puis il répond à l'une des questions de cette société savante, qu'est l'Académie de Dijon. La question est si l'établissement des arts et des sciences a contribué à corrompre ou à épurer les mœurs. Ah, vous savez dans quel camp va se situer d'emblée celui qui répond à cette question. Il ira très vite créer le mythe du bon sauvage. Ça y est, la philosophie de Rousseau est à l'image de son parcours. L'homme naît naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. C'est Jean-Jacques Rousseau et ses rêveries d'un promeneur solitaire qui auront inspiré ce rêve à Joseph Haydn, interprété ici par le Quatuor Amati.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Les principes exprimés, notamment dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, on les retrouve un peu partout dans la littérature de Rousseau, et notamment dans l'Émile, Émile ou de l'éducation, où je lis ceci, « Dans l'ordre naturel, les gens étant tous égaux, leur vocation commune est l'état d'homme, et quiconque est bien élevé, pour celui-là, ne peut mal remplir ceux qui s'y rapportent. Qu'on destine mon élève à l'épée, à l'église, au barreau, peu importe. Avant la vocation des parents, la nature l'appelle à la vie humaine. Vivre est le métier que je lui veux apprendre. En sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre. Il sera premièrement homme. Tout ce qu'un homme doit être, il saura l'être au besoin tout aussi bien que qui que ce soit. Et la fortune aura beau le faire changer de place, il sera toujours à la sienne. Être toujours à sa place parce qu'on est comme, mais qu'on l'est pleinement, voilà en quelque sorte l'idéal que poursuit Jean-Jacques aux yeux de qui ce qui compte, somme toute, n'est pas la fin, mais le cheminement. Ce n'est pas la jouissance, mais le désir. « Malheur à qui n'a plus rien à désirer », écrit-il. Il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère. Et l'on n'est heureux qu'avant d'être heureux. L'illusion cesse où commence la jouissance. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Et tel est le néant des choses humaines. Corps l'être existant par lui-même, petite concession au bon Dieu, ça ne fait jamais de mal, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Celui qui pourrait tout sans être Dieu serait une misérable créature. Il serait privé du plaisir de désirer. Toute autre privation serait plus supportable. J'aime beaucoup cette phrase assez extraordinaire. Tel est le néant des choses humaines, corps l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Cette phrase, elles sont issues de la nouvelle Héloïse dont Gérard Bauer nous dit ceci, la nouvelle Héloïse qui paraît en 1761. Montesquieu venait de publier l'Esprit des lois, l'abbé Prévost, Manon, Marivaux, Marianne, Voltaire signait son immortalité avec Candide, Vauvenargues avait tracé les pensées les plus aiguës que puisse concevoir un jeune homme de 28 ans, dans son hôtel de la rue Saint-Dominique, Saint-Simon, orgueilleux et solitaire, achevait ses mémoires et sa vie, Diderot composait son drame du fils naturel, le siècle enfin donnait ses grands témoignages de survivance classique. Lorsqu'un homme dont la renommée ne s'appuyait encore que sur des essais sociaux composa un roman, qui allait bouleverser les âmes. Cet homme, c'était Rousseau, ce roman, la nouvelle Héloïse. Du jour au lendemain, il s'accomplit un phénomène tel qu'il ne peut se comparer qu'à une contagion, tant il fut vif et travailla ceux qui en étaient atteints. Et il conclut, Gérard Bauer, « parti du cœur, il s'en alla raisonner dans une quantité de cœurs. Jean-Jacques, en 1761, 13 ans avant Werther, venait de pousser le premier cri du romantisme. »
Franck Ferrand sur Radio Classique.
J'aurais bien des choses encore à vous raconter, mais le temps passe. Il faudrait que je condense les sublimes rêveries d'un promeneur solitaire, demeurées inachevées. Il faudrait parler de la persécution de tous les grands auteurs, Diderot, Grimm, Voltaire, contre celui qui s'attaquait d'une certaine façon à ce qu'ils étaient, qui s'attaquait aux sophistications des Lumières. Et puis parler de l'ermitage de Madame d'Épinay, du refuge de Montmorency, Montlouis. La crainte du Parlement de Paris et la fuite interrompue dans le canton de Berne, la protection du roi de Prusse à moitié travers, l'Angleterre à l'invitation de David Hume aussi et le retour à Paris, et puis l'ultime fuite, si je puis dire, l'ultime pérégrination personnelle, solitaire, à Ermenonville. Ce n'est là, ce n'eût été là que l'écume, car les courants profonds sont ailleurs et sans doute sont-ils dans ce pré-romantisme souligné par Bauer. Il y avait aussi, nous dit-il, le style arraché à la sécheresse classique et gonflé soudain d'une sève grisante. Il y avait la nouveauté du cadre, la description des paysages et de mœurs qu'on n'avait encore jamais observées. C'était la première fois qu'on liait aussi vivement la nature au sentiment. Goethe et Schiller, Sénancour et Chateaubriand et Byron et Lamartine, Hugo et Vigny n'ont plus qu'à paraître. Les décors du drame romantique sont plantés pour un siècle. Aujourd'hui, ils nous semblent poussiéreux. Du temps de Jean-Jacques, ils étaient neufs et brillaient d'un vierge éclat.
Vous écoutez Radio Classique.
Il brille aussi d'un vierge éclat. C'est Christian Morin. Bonjour, Christian.
Et puis, depuis 4h et 6 minutes ce matin, parce que oui, je suis le printemps.
Ah, mais c'est ça.
Oui, oui. C'est pour ça. Mon cher Franck, merci pour cette histoire autour de la petite musique de Rousseau. On reste avec le grand auteur, c'est Montesquieu, cet après-midi.
Mais oui, on sera tout à fait dans le même registre. Un Montesquieu, évidemment, un peu plus sage et d'une certaine manière beaucoup plus ancré dans la tradition que le grand Rousseau.
Bien, 14h cet après-midi et de nouveau demain matin avec grand bonheur. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Merci.